Claire Scoyer et Olivier Fourneau. Bienvenue, merci d'être venus de si grand matin dans les studios de Radio Panique. Vous êtes tous les deux travailleurs coordinateurs à Inter-Environnement Bruxelles. Et donc, on connaît la revue d'Inter-Environnement Bruxelles, Bruxelles en mouvement, qu'on reçoit d'ailleurs toujours précieusement ici à Radio Panique. Et cette fois-ci, dans le dernier numéro, le dossier est consacré à l'éducation populaire et où... on est l'éducation populaire. Et donc, en Belgique, on a cette difficulté de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on doit parler d'éducation populaire, d'éducation permanente? J'imagine que vous aborderez un peu le sujet. Mais racontez-nous peut-être un peu comment IEB, si je ne me trompe, aussi organisation d'éducation permanente,
comme Radio Panique,
comme Radio Panique, on est venu à se poser cette question et à consacrer un dossier assez participatif à cette question.
Moi c'est Claire, je travaille à IEB depuis un peu plus de 10 ans maintenant, donc IEB, tantôt on dit IEB, tantôt Inter-Environnement Bruxelles, et qui est donc à l'origine de ce journal, le Bruxelles en mouvement. C'est une fédération de comités de quartier qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, et qui est reconnue de longue date en éducation permanente, parce qu'effectivement, dans le cadre institutionnel, en Belgique, on parle bien de l'éducation permanente, alors qu'en France, on va plus parler d'éducation populaire, mais j'y reviendrai. Et nous sommes reconnus institutionnellement en éducation permanente de longue date. Et finalement, c'est une pratique qu'on a, ou en tout cas qu'on tente de pratiquer, parce que comme tu l'as dit Zoé, c'est un cadre foisonnant et flou, et qui, je pense, pose plein de questions autant pour les travailleurs que pour tous ceux qui gravitent autour de ce concept. Et donc on s'est dit, en réalité, on n'avait jamais fait un dossier sur l'éducation permanente. Et il se fait aussi que pour nous, l'année 2020, c'était l'année de reconnaissance quinquennale. Donc voilà, pour les associations qui sont reconnues, tous les 5 ans, elles doivent rendre un très très gros rapport pour continuer à être reconnues. Et donc on s'est dit, plutôt que juste remplir des grilles et pondre des lignes et des lignes de rapport, autant... faire un dossier de fond débattu avec d'autres structures, avec d'autres associations, mais aussi avec des collectifs non reconnus, collectifs d'habitants, par exemple le pavé des Marolles qui se retrouve dans le dossier. Et donc avec mon collègue Olivier Fourneau, on a pris ça un peu à bras le corps, si ce n'est que en plein milieu de notre envol, on s'est retrouvés confinés, donc c'était un peu complexe pour quelque chose qu'on voulait surtout être un savoir chaud, et pas un savoir froid, quelque chose qu'on voulait traiter en face à face avec des paroles chaudes. On s'est retrouvés, c'était un petit peu plus compliqué que prévu, mais on a néanmoins réalisé des interviews. On est parvenu vers le mois de juin à réunir quand même quelques associations autour d'une table physiquement. Mais au final, le résultat est là et voilà, on a déjà quelques retours, tant des structures qui ont participé au dossier que d'autres personnes du réseau, et ça fait son bonhomme de chemin. Je sais pas, Olivier, si tu veux.
Oui, tout à fait. On a voulu parler d'éducation permanente et sans doute de deux manières. On avait en tout cas deux objectifs. Le premier, c'était de réinformer, de réaffirmer l'importance de cette pratique. Qui est peut-être connu dans un milieu qui la pratique ou qui est financé par ça, mais finalement c'est l'éducation permanente, on estime en tout cas à Inter-Environnement Bruxelles que ça n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite, et on a également voulu réinterroger le cadre et la manière dont on la pratique, c'est-à-dire qu'on voulait pas faire un discours laudatif sur l'éducation permanente, c'est génial, on voulait aussi inviter les gens qui font de l'éducation permanente au jour le jour, pour essayer de voir comment l'améliorer, à quelles difficultés on est confronté, et quelle force elle apporte au public qui la pratique. Voilà, je crois que c'était nos deux objectifs principaux.
Et justement, dans l'article introductif au dossier que vous avez rédigé tous les deux, vous montrez un peu l'historique et comment cette pratique, justement, de mobiliser... à la base plutôt les classes populaires, les classes ouvrières, se faisaient de manière plus ou moins bénévole, de manière à autonomiser, à émanciper les gens, et que y a quelque chose qui revient dans plusieurs des articles, c'est ce que le décret et ce que l'institutionnalisation a pu faire à l'éducation permanente, positivement ou négativement, hein. Et donc est-ce que comment ça a évolué, si vous deviez mettre quelques jalons de l'éducation populaire, l'éducation permanente en Belgique, quelles seraient les grosses étapes clés que vous pourriez
mm-hmm. En fait, c'est une évolution qui est loin d'être linéaire, parce que on ne peut pas tellement dire qu'on aurait évolué de quelque chose de l'ordre du bénévolat émancipateur vers quelque chose de l'institutionnel et intégrateur. Comme tu l'as dit, à ses origines, c'est très lié à la question ouvrière, hein, ça c'est clair. Donc quand on dit populaire et le peuple, on pense au début du 20e au monde ouvrier. Et donc l'éducation à ce moment-là s'appelle éducation populaire, et vraiment on s'adresse à la classe ouvrière. Mais quand on s'adresse à la classe ouvrière, on sent à la fois des sensibilités, oui, sans doute plus contestataires, plus révolutionnaires, de mobiliser la classe ouvrière, mais il y a aussi quand même un fort versant intégrateur. Qui est, bon, il faut éduquer les classes populaires qui n'ont pas été formées, qui n'ont pas nécessairement eu accès à l'enseignement. Il faut un modèle complémentaire à l'enseignement qui se poursuit par la suite dans le cadre du monde du travail. Et on voit aussi que ça vient se télescoper avec la période des loisirs, avec l'apparition des congés, et une inquiétude aussi de se dire mais que vont faire les ouvriers pendant leur moment de loisir. Donc il y a d'emblée quand même à la fois, oui, sans doute une volonté de développer l'esprit critique, et surtout de permettre aux ouvriers d'accéder à un savoir, à des connaissances, et dans le même temps une volonté plus morale d'encadrement. D'ailleurs ça sent très bien quand il y a le Conseil supérieur d'éducation permanente, qui s'appelle alors le Conseil de l'éducation populaire en 1929. Il vise à promouvoir tout ce qui a pour objet de procurer aux travailleurs le moyen de faire un emploi utile et moral de leurs loisirs. Hein, donc voilà, ça c'est écrit noir sur blanc. Après, ça va évoluer, on a mai 68, et donc on sent, voilà, c'est une vaste période de remise en question, mais finalement, elle était d'ordre social et culturel, mais c'est surtout tout le versant culturel qui va dominer. Et c'est là qu'on sent ce basculement d'accès en fait à la culture dominante. On était plus dire il faut permettre à la classe ouvrière d'accéder à la culture des dominants, finalement, et de se dire ben non, il faut assurer une vraie démocratie culturelle. Donc vraiment un foisonnement d'ouverture, et qui n'est plus tant ce rapport d'une culture dominante sur d'autres cultures minoritaires. Et c'est là que tout doucement vont s'ouvrir des brèches aussi avec toutes les cultures minoritaires, qu'elles soient d'ordre du genre, des origines, etc. Après, on arrive en 76 avec le décret que finalement on connaît toujours aujourd'hui, le décret dit de l'éducation permanente, qui reste néanmoins très axé sur la question de la classe populaire, si ce n'est qu'entre-temps, la classe populaire, elle a changé. Le monde ouvrier a changé, et finalement, le monde ouvrier accède pour partie, malgré tout, à une classe moyenne, à la classe des salariés, toujours est-il. Et puis, autour de ça, toute une série d'ordres de précarité. Et donc, si autrefois on se disait, tiens, on va organiser la classe populaire au sein de l'entreprise, hein, avec les syndicats, etc., les syndicats, de ce point de vue-là, perdent du terrain, ou en tout cas vont devoir se tourner aussi vers d'autres types d'exclusion sociale. Et donc aujourd'hui se pose la question, quand dans la dynamique collective, comment on organise une dynamique collective au sein d'un quartier, au sein d'un ensemble de logements sociaux, et pas uniquement au sein de l'entreprise. Et là-dessus, le décret, il va sans doute un peu patiner, je pense qu'il va jamais vraiment affronter la question. Il va suivre la mouvance de 68 et s'ouvrir à la question des cultures minoritaires. Il va continuer à marteler qu'il faut s'adresser majoritairement à la classe populaire. Avant, il y avait même carrément, il fallait, c'était 80% du public, des associations, le fameux public, devait être classe populaire, mais ça veut dire quoi? Je veux dire, vous faites une activité d'éducation permanente, vous demandez, ah tiens, est-ce que tu fais partie de la classe populaire? Enfin, bon, c'est un peu étrange, évidemment. Et donc voilà, c'est toujours resté dans un grand flou, cette question-là, et dans le même temps, comme tu l'as dit, le décret, tout en permettant, et comme Olivier l'a dit, à une multitude d'associations de vivre ou de survivre par une reconnaissance et des subsides parce qu'on pratique ou on tente de pratiquer un travail d'éducation permanente. Hein, ça permet d'avoir accès à des fonds sur des plans quinquennaux, ce qui est plus confortable, on y reviendra sans doute, que des appels à projets. Mais il y a aussi une technocratie qui fonctionne avec ça. On doit remplir une multitude de grilles et c'est vrai qu'on voit le temps que toutes les structures aujourd'hui doivent passer pour remplir ces grilles en vue d'être évaluées. On se demande, est-ce que l'éducation permanente même instituée elle-même ne pourrait pas pratiquer l'évaluation de façon plus collective? Pourquoi ne pas pratiquer, par exemple, des évaluations collectives entre associations reconnues? Comme nous, par exemple, on a tenté d'en le faire dans le Bruxelles en mouvement, ben, on rassemble des structures avec lesquelles on travaille ou même avec lesquelles on travaille moins et on essaie de débattre ensemble de nos difficultés, de nos problèmes, de nos avancées. Donc voilà, c'est technocratique. Et alors, il y a aussi ce versant de professionnalisation. C'est pour ça qu'on a voulu s'y mettre en avant. Des collectifs qui ne sont pas reconnus en éducation permanente, mais qui fondamentalement la pratiquent. Parce que finalement, à partir du moment où on veut battre en brèche, où on veut battre en brèche l'ordre, le système dominant, quelque part, ce cadre institué fait que c'est majoritairement une classe moyenne qui va pratiquer et dire « je pratique l'éducation permanente vers une classe populaire ». On reste un peu comme ça dans cet ordre des choses au final.
Et est-ce que, pour rebondir sur ce que tu viens de dire justement, est-ce qu'il n'y a pas pas un gouffre, hein, c'est pas à ce point-là, mais justement, comme tu le dis, entre les travailleurs de l'éducation permanente et ce fameux public, est-ce que justement, dans une association comme le pavé dans les Marolles ou comme dans la rue, est-ce que cette différence entre ceux qui vont venir travailler et qui sont payés pour faire quelque chose et les bénéficiaires, est-ce que c'est une tension qui est mise en avant et qui suscite des interrogations ou dans certains, enfin surtout dans les associations qui travaillent au sein de certains des quartiers, enfin des territoires, je veux dire. Je ne parle pas là ici d'un territoire en particulier, hein, mais du fait de travailler de manière ancrée sur un territoire. Est-ce que c'est des réflexions qui sont traitées à bras le corps ou bien parce qu'effectivement, pour travailler aussi dans une organisation d'éducation permanente, je vois aussi qu'on est salarié, que pour certains on a un salaire tout à fait plus que correct et on travaille avec un public qui n'est pas dans ces situations-là. Et donc effectivement ça revient à ce que tu disais, de dire quelle est notre légitimité. Et donc est-ce qu'on ne va pas un peu à l'encontre aussi de peut-être l'âme de ce que pouvait être l'éducation populaire, justement où on apprenait ensemble?
Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on traite vraiment dans le dossier. C'est que l'éducation populaire, enfin, qui est devenue éducation permanente, de par ses racines, on a une image fantasmée du public. L'éducation permanente, elle s'adressait à un public ouvrier, donc quand on est travailleur, on voudrait s'adresser à ce public ouvrier, continuer et œuvrer à l'émancipation de la société. Et donc on a tous c'est un peu le fantasme du travailleur, mais on a vraiment... On a fait une table ronde, c'est-à-dire nos articles, et on s'est rencontré avec pas mal de travailleurs et on a essayé de déconstruire cette idée. Et donc la première chose qu'on s'est rendu compte en parlant de notre public, c'est qu'en fait, le public, il est divers et il change en fonction de la pratique qu'on exerce. Si on fait de l'alphabétisation, on va avoir un public très précaire. Si par exemple on fait une formation en informatique, déjà le public va changer. Quand on travaille sur l'aménagement du territoire, en partie et en grande partie, on va plutôt s'adresser à une classe un peu plus bourgeoise. Donc, ça c'est un constat. La question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est problématique ce constat ? Je pense qu'il y a du pour et il y a du contre, mais en y réfléchissant, en argumentant, on s'est rendu compte que l'éducation permanente, c'est profondément et intrinsèquement un rapport politique. Et on ne peut pas éluder ce rapport politique qu'il y a dans notre action. Alors, vouloir mettre une mixité sociale, vouloir arriver à faire rencontrer les gens dans un rapport politique, c'est aussi éluder des rapports de force intrinsèques qu'il y a dans l'action d'éducation permanente. Donc ça, c'était un de nos premiers constats. L'autre constat, par rapport à la professionnalisation et notre rapport au public, c'est de dire, j'essaie de trouver mes mots, il y a deux problèmes là-dedans. Il ne faut évidemment pas passer de la caricature de dire qu'on est passé du bénévolat au professionnel. Mais d'être passé de structure bénévole aux structures professionnelles, ça induit que maintenant on a un horaire de travail, ça induit qu'on est payé pour aller à notre travail, et ça induit que on n'est plus toujours présent dans les lieux où le public se rencontre, où le public forme des mobilisations. Et Gaspard, par exemple, qui est présent dans le dossier, donnait l'exemple du... Ben, à la rue, le public, il y a des lieux de mobilisation qui se font aussi sur les réseaux sociaux, qui se font aussi dans les coins de rue, et on a un problème pour rester en contact, enfin pas un problème, mais en tout cas on voit un enjeu là derrière pour réinvestir ces terrains et réinvestir ces pratiques par rapport à notre public. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si Claire, tu veux rajouter quelque chose.
Oui, je peux rajouter quelques éléments. Par exemple, je pense que le décret pêche profondément par le fait d'être absolument adossé à la question de l'emploi. Alors, bien sûr que l'emploi est une question fondamentale, on va dire, du coup, un vecteur d'intégration. Mais donc, l'éducation permanente est vraiment pensée à la fois comme un vecteur d'émancipation critique, mais dans le même temps, comme un décret visant à créer de l'emploi. Vous recevez un subside pour créer de l'emploi, et vous êtes obligé de justifier que vous consacrez ce subside à l'emploi. Et du coup, ça occulte complètement la question du bénévolat que tu énonçais tout à l'heure. Du coup, c'est ce qui va faire que les travailleurs d'une structure qui vont pratiquer l'éducation permanente sont les salariés qui restent dans ce cadre salarié avec plutôt des horaires et des revendications de salariés, etc. et tout ce qui va avec. Alors que si le décret s'ouvrait plus à la question du bénévolat et affrontait cette question, sans doute que ça offrirait un foisonnement beaucoup plus puissant et une force aussi et une capacité à dépasser des cadres et à toucher notamment une diversité de population, parce qu'on pourrait véritablement d'ailleurs associer aussi parfois des plus concernés des quartiers plus facilement à la dynamique et pas être dans ce rapport on est les organisateurs de l'éducation permanente et vous êtes notre public concerné et être dans ce truc où on a des personnes qui vont être en quête de reconnaissance à travers ces choses-là et qui se confrontent à des travailleurs en quête de justification et avec parfois dans cette quête de reconnaissance, un épuisement d'un public finalement très minoritaire qui sont un peu ces personnes de bonne volonté qu'on retrouve toujours dans toutes les réunions, dans tous les événements, etc. Et qu'on épuise, c'est parce que eux sont en quête de reconnaissance et nous, on doit remplir des grilles à tout prix. On dit, ah ben ils sont pratiques, ceux-là, on sait que si on les invite, ils seront toujours là. Et donc voilà, il y a plein d'effets pervers, je pense, là-dessus, à dénoncer et à travailler. Donc cette question bénévolat-emploi, elle me paraît assez fondamentale. Et alors il y a la question des alliances de classe, un peu ce qu'Olivier disait en disant, ben voilà, en fonction des besoins, les structures vont essayer de répondre à des besoins. Et on a observé, en discutant avec la rue, avec l'université populaire d'Anderlecht, avec Bonnevie, enfin toutes ces structures qu'on a essayé d'asseoir autour de la table, des effets de cloisonnement qui sont un peu inévitables, puisque ben, le fameux public va aller là où on répond à son besoin et le tout va souvent rester cloisonné. Et même quand les structures essayent de brasser tout ça, ça ne se fait pas. Alors, il y a ce que dit Olivier, est-ce qu'il faut absolument le faire? Parce qu'on nous vend beaucoup, hein, c'est l'apicratie, le vivre ensemble, la mixité sociale, etc., qui sont des leurres et qui occultent complètement et qui éludent le rapport de force et une question fondamentalement politique. Et dans le même temps, reste quand même une vraie question de comment faire en sorte... pour par exemple IEB, Fédération de Comités de Quartier, si tu fais partie d'un comité de quartier, on a constaté, c'est pas 100% le cas, mais la figure, le profil socio-économique des gens qui sont dans les comités de quartier, c'est plutôt des diplômés, en moyenne plutôt des personnes âgées, parce que ça demande du temps. Et donc c'est vraiment un certain profil. Et donc de se dire que la ville serait le résultat, parce qu'on pourrait dire ah c'est un idéal, la ville n'est plus, c'est plus les décideurs, c'est plus les urbanistes, c'est plus les politiques, les architectes, c'est les comités de quartier. Mais si les comités de quartier c'est des gens diplômés, classe moyenne, plutôt âgés, je suis pas sûre que la ville qui se construira alors sera une ville égalitaire et juste socialement. Et donc pour IEB, ça c'est une vraie question. Donc nous on est obligé de dépasser cette figure du comité de quartier et dans le même temps de faire un travail vers nos comités de quartier pour qu'ils affrontent la question sociale, pour que ce qu'ils portent ne soit pas juste la question environnementale. Et donc, parce que souvent, on va dire, oui, mais vous êtes inter-environnement Bruxelles et vous devez défendre l'environnement. Oui, on défend l'environnement, mais complètement articulé à la question sociale. Et donc, pour nous, c'est important et de ne pas faire un travail de missionnaire dans les quartiers populaires, mais d'essayer de faire émerger les paroles... des quartiers populaires. Après, voilà, parfois, ça peut, c'est pas simple, c'est pas facile. Est-ce qu'on parvient complètement parfois à échapper nous-mêmes à notre condition? Non. Donc, il faut l'assumer, il faut le reconnaître. Et alors, quelque chose que je voudrais ajouter, c'est vraiment ce justement, peut-être dans ce côté missionnaire que parfois on peut avoir, on va apporter la bonne parole, et donc c'est quelque chose de très présent de présenter des lieux comme dévitalisés à revitaliser. C'est quelque chose dans l'urbanisme d'aujourd'hui qu'on entend tout le temps. On doit revitaliser les quartiers. Et ça, c'est historique. Le colonisateur, il va présenter l'endroit où il va intervenir comme un désert. Et c'était, on en parle dans le dossier, le mouvement immigration banlieue en France disait ben, les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. On a souvent cette parole de dire oui, mais ils ne savent pas s'organiser. Et Gaspard Delarue disait ben, non, ils s'organisent autrement. En fait, c'est parce que ça se rencontre pas toujours, les modes d'expression sont pas nécessairement les mêmes, ou les revendications ne sont pas les mêmes. Et donc, voilà, ça, c'est des questions que l'éducation permanente, l'éducation populaire doit absolument affronter, à notre avis.
Et justement, enfin, j'ai l'impression aussi que parfois on ne considère comme organisé que ce qui est reconnu et subsidié, et donc tout le reste qui est pourtant existe un peu partout et comme
absolument.
Tu dis dans tous les quartiers, bien ça existe.
Ouais. Et c'est vraiment, il y a ce truc, il y a un pivot, hein, je pense, le bénévolat emploi, il y a quelque chose là-dessus, parce que on est tous confrontés à la question du temps, en fait. Ce qui nous embête aussi beaucoup dans le décret, et c'est pas que bien, on sait qu'on est tous face à ça, c'est que si tu veux faire un vrai travail de fond, faire émerger l'expertise du bas, hein, qu'on va dire, etc., c'est énormément d'investissement en temps. Et donc, ça se télescope complètement avec le temps du salariat, ça fonctionne pas ce truc-là. Mmh. Ça peut pas fonctionner.
Non, quand effectivement les gens se retrouvent plutôt après leur boulot en soirée et que les travailleurs de l'éducation permanente ont un 9-17, je caricature, hein, parce que c'est pas aussi que ça, mais forcément, où sont les lieux de rencontre qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait autre chose que je voulais, mais je dois retirer mes lunettes. Et donc justement, est-ce que une organisation comme la rue ou le comité Bonne Vie ou des organisations comme ça, elles sont clairement nées d'un quartier, d'un territoire? Comment elles ont réussi justement à évoluer? Quels sont les défis qu'elles ont pour pouvoir perdurer dans le temps? Et donc je pense que la rue ou le comité de quartier Bonne Vie ne sont pas du tout, sont plus ou moins dans le même quartier, mais n'ont sans doute pas la même réalité. Et à côté de ça, des Non, je reviendrai avec une autre question après.
Donc, la rue, c'est une association très intéressante. Hein. Elle a fêté ses 40 ans en 2018. Et on avait voulu revenir dans ce dossier sur la création de cette ASBL. Donc, c'est une ASBL qui s'est créée en 78 au sein du vieux Molenbeek, un quartier qui a été traumatisé par la création du métro, par la désindustrialisation. Et donc, des habitants se sont dit qu'ils allaient créer un lieu de rencontre qui est le bar, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle le bar de la rue. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est une association aujourd'hui qui a une multitude de pratiques. Je crois qu'il faut le dire, ils font vraiment beaucoup de choses. Ils font des écoles de devoirs, ils font d'accompagnement au logement, ils font des groupes papotes, c'est des groupes où les gens de tous les milieux se rencontrent pour venir discuter. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Aide-moi, Claire.
Il y a les jardins
collectifs.
Il y a plan de cohésion sociale, donc il y a tout un travail aussi. Ben, par exemple, la tour de logements sociaux Brinfo, ils ont.
J'allais y venir. Et donc, ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on est arrivé d'une petite structure de bénévoles qui était à un bar à cette espèce, non, c'est pas une espèce, à une ASBL présente dans tous les aspects sociaux de la vie. Et en fait, on voit que c'est un groupe de bénévoles qui a d'abord rencontré un bar, puis qui s'est dit qu'il allait faire des activités festives dans le quartier. Puis en rencontrant les habitants, ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin d'école de devoirs, donc ils ont créé une école de devoirs. Et on a une association qui a grandi et qui est passée du bénévolat à la professionnalisation. Alors ça n'a pas été facile. Ils nous ont montré... on voit... La rue nous apprend, par sa pratique, des choses intéressantes dans l'éducation permanente. La première chose, c'est qu'il faut travailler sur un temps long et réinterroger ses pratiques. Le quartier a évolué de la rue. On est passé d'un quartier qui était un peu ouvrier à un
vieux Molenbeek. Hein. La rue est active dans le vieux Molenbeek, proche du canal.
Et donc, ils ont réussi à réinterroger leurs pratiques. Et par exemple, ils ont réussi à mettre des cours d'alphabétisation quand les populations ont changé. C'est aussi une association qui arrive à travailler à la fois sur les individus et sur les dynamiques collectives. Par exemple, ils sont très actifs sur la crise du logement. On sait que la crise du logement en région bruxelloise, c'est ténu, c'est aigu. Et donc, on doit accompagner des habitants qui n'ont souvent pas de solution par rapport à une crise de logement. Donc, ils ont à la fois un accompagnement individuel, mais qui essaye de réagir à l'urgence de la situation. Mais ils ont aussi des dynamiques collectives. Et si l'accompagnement individuel il permet de résoudre une situation permet de résoudre un problème individuel, la dynamique collective, on se rend compte qu'elle est vraiment beaucoup plus efficace, qu'elle arrive à avoir des effets structurels. Et par exemple, il y avait une tour Brinfo. Oui, la tour Brinfo, c'est une espèce d'énorme tour Port de Ninove, qui était une tour de logement social insalubre, il n'y avait pas d'insonorisation, pas d'isolation, et qui était là depuis 30 ans. Et eh bien, une action...
Elle est là depuis 50 ans, en fait.
Ah oui, ben je suis très mauvais en mathématiques. Donc, une action collective, réunir les habitants et les associations. Ils sont réunis, ils ont interpellé des politiques, ils ont écrit des textes, ils ont fait des vidéos. Et à force de cette mobilisation collective, qui est une pratique d'éducation permanente, ils ont réussi à mobiliser le pouvoir public pour lancer cette rénovation. Alors cette rénovation, ils ont déclaré qu'il a rénové au début des années 2000. Et elle commence que maintenant. Mais finalement, c'est quand même une dynamique collective d'habitants en démarrant par le bas qui a permis de transformer un quartier. Et nous, on trouvait que c'était des exemples très intéressants d'éducation permanente.
C'est intéressant cet exemple-là parce que c'est un des fils conducteurs, il me semble, qu'on trouve dans le dossier. C'est comment, je crois que c'est le travailleur du Picole, qui est une association de cohésion sociale à La Cogne, qui dit ça. Il dit, on a tissé leur colère et de rouspéteurs, ils deviennent des interlocuteurs légitimes. Et donc, c'est toute cette question que beaucoup, on est tous comme ça, c'est pas juste une question à les classes populaires et les gens, et enfin, la manière dont on nous rend un nous abstrait, mais quelque part, ce truc, on a une colère qui est légitime, mais elle est perçue comme de l'ordre de la plainte. Et que si on parvient collectivement à avoir la conscience que le problème qu'on rencontre, il est partagé par une multitude et qu'on parvient à faire se rencontrer cette multitude, ça va créer une légitimité. Et quelque part, ben, on voit que Bonnevie, le Picole, la rue Convive, etc., toutes ces structures avec lesquelles on a discuté, tentent ce travail-là. Alors parfois ça prend, parfois ça prend pas. C'est quelle vigilance avoir pour au moment où cette étincelle se crée, la saisir, tisser ses colères et parvenir alors à faire remonter vers le haut et transformer le système, parce que c'est là qu'on touche à cette fameuse transformation du réel qui est pas juste un mythe. Il y a des moments, elle se passe et ça peut paraître du micro, mais ce sont tous ces petits micros en fait qui créent quand même par leur accumulation une remise en question de l'ordre dominant. Et donc il y a l'histoire que Olivier vient de raconter, et sans doute parce que la question de la crise du logement est effectivement aiguë et cruciale en région bruxelloise. Il y a le récit du Picole qui touche aussi à un ensemble de logements sociaux, où souvent on va dire, les logements sociaux, c'est normal, ça ne va pas, c'est des pauvres. Voilà. Et on s'arrête à ça. Ça ne peut pas marcher, on met des pauvres ensemble et donc ça ne peut pas aller. Mais en fait, dans quelle situation on les met? Quelque part, ces ensembles-là, à l'époque, c'était considéré comme du progrès. On les a créés. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait les créer comme ça? Peut-être non. Toujours est-il qu'on l'a créé, qu'on a besoin de logements sociaux. Et que souvent, les difficultés qui s'y trouvent, oui, effectivement, il y a une concentration de pauvreté, mais parce que si on avait plus de logements sociaux, il y aurait sans doute moins de concentration de pauvreté. Et aussi, parce qu'on les laisse dans des ensembles délabrés, où on va souvent renvoyer la faute à l'habitant quand on voit à Anderlecht la tour des Goujons, les balcons qui s'effondrent. Enfin, c'est scandaleux, c'est pas acceptable. Et donc souvent ils sont pris dans une technocratie des administrations. Donc il y a les CISP, ce sont comme Auzel, c'est le foyer Lacanois, Anderlecht, le foyer Anderlechtois, et quelque part qui fonctionnent comme des méga structures écrasantes. Et donc les paroles de ces habitants ne sont jamais audibles, et donc c'est l'assistante sociale qui va s'en prendre plein la gueule, c'est un peu ça, et qui va faire barrage vers le haut. Et donc ces structures parviennent à tisser ces colères, et donc c'est ce qui s'est passé au Picole vis-à-vis du foyer Le Quenois, ou c'est ce qui a pu se passer dans le cas de la tour Branfaux. On parvient à créer des percées lumineuses où tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe vraiment sur le terrain.
Ben je vois qu'on est que le temps file. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire avant de nous quitter? Absolument, un élément j'ai trouvé très intéressant de pouvoir lire aussi ce que vous avez souligné à un moment, c'était justement de rendre collectif quelque chose qui pouvait être perçu comme étant une colère individuelle et puis de faire émerger cette Et ça revient un peu dans tous les articles aussi, c'est le principe de l'éducation populaire. Est-ce qu'il y a autre chose ou un autre élément d'un article qu'on n'aurait pas évoqué? Il y en a sans doute plein, j'invite tout le monde à lire ce beau dossier.
Mais en tout cas, voilà, parce que comme nous, notre question, elle est urbaine, c'est que on nous vend aujourd'hui la ville de demain, et que voilà, c'est l'élite, c'est les décideurs. Mais quelque part, ne pas... voilà, je pense qu'il y a... pour nous, le travail d'éducation permanente, il vient à renverser, à affronter la complexité de la ville, à révéler ses inégalités sociales, et que la smart city, la ville de demain, avec ses coulées vertes, avec ses grandes tours de logement qui, soi-disant, répondraient à la crise. Voilà, c'est que exercer un esprit critique... là-dessus, c'est un vecteur d'égalité sociale où les comités de quartier doivent rentrer en alliance avec les habitants des quartiers populaires.
Ben, merci beaucoup, Olivier, Claire, d'être venu de si bon matin. Donc, le dossier, on peut s'abonner à Bruxelles en mouvement. On peut aussi lire ce dossier, il est en ligne, je pense.
Alors, nous, on tient à ce que le Bruxelles en mouvement puisse être lu, donc il est distribué gratuitement dans les lieux culturels, dans les cafés, auprès de différentes associations. Dans tout Bruxelles, on distribue plus ou moins 4000 exemplaires gratuitement. Mais sachez que le Bruxelles en mouvement, c'est un journal autofinancé par ses abonnés. Donc c'est grâce aux abonnés qu'on parvient à financer ce journal. Il dépend d'aucun subside. Et donc l'abonnement, il est de 24 euros pour 6 numéros, si je ne m'abuse. Il y a aussi un prix de soutien, si vous voulez. Donc voilà, si vous voulez soutenir le Bruxelles en mouvement. Et je voulais revenir, parce que je n'ai pas beaucoup parlé du pavé des Marolles, mais c'est quand même un journal extraordinaire, fait complètement bénévolement à 3-4 000 exemplaires dans un quartier populaire, fait par les habitants, et qui permet voilà, de faire que les Marolles, ce n'est pas juste le quartier sympa, de la place du jeu de balle, des brocanteurs, etc. Enfin, c'est un quartier très riche, avec plein de tensions, plein de questions, et que se dire, voilà, il y a des habitants très diversifiés qui se sont saisis pour aller voir un peu dans les coulisses et mettre au jour toute une série de questions, parce que les Marolles, même s'il y a pas mal de logements sociaux, doivent faire face à une forte poussée de gentrification. On a vu aussi pendant les périodes de confinement les contrôles policiers qui n'étaient pas très légitimes. Enfin, voilà, donc je vous invite à lire aussi ce journal étonnant, Le pavé des Marolles, qui est distribué gratuitement.
Tout à fait. Ben, merci beaucoup à tous les deux. À une prochaine fois, sans doute. Et moi, je vous retrouve, amis auditeurs, amis auditrices, la semaine prochaine, dès 7h, pour la promesse de l'aube du mercredi. Au revoir.